cours 12, je suis valorisé en Christ. Le cours dernier, je suis né de Dieu et le malin ne peut pas me toucher. Puis avec Timothée, on a conclu que nous, ici à Rosemont, on ne pêche plus. Il n'y a personne qui ne pêche plus. Non, ce n'est pas ça qu'on a conclu. On a parlé qu'il y a une église qui dit qu'ils ne pêchent plus. Je ne sais pas comment ils font pour se mentir à eux-mêmes. Hein, parce que la parole même dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, on fait mentir à qui? À Dieu. Parce que nous avons péché et nous allons malheureusement encore pécher. Je ne vous donne pas la meilleure nouvelle aujourd'hui, hein, mais vous allez continuer à pécher. Et moi aussi, malheureusement. Mais que le Seigneur nous livre d'une vie de pratique de péché. Parce que c'est ça la différence. Le chrétien ne pratique pas, ne vit pas dans le péché. Le chrétien peut pécher, mais il va se relever toujours. Parfois, ce sont des péchés plus graves que d'autres. Mais le Seigneur va toujours nous prendre la main, il va nous relever et puis il va nous pousser pour que nous continuions dans la vie chrétienne. Alors, on avait conclu ça et les malins ne peuvent pas nous toucher. Est-ce qu'ils ne nous touchent pas non plus, le malin? Est-ce que Satan ne nous touche pas? Sauf que parfois, on met la faute à 100% sur Satan parce qu'on veut s'excuser. Non. OK? Il y avait quelqu'un qui disait « pauvre diable ». Et on lui charge de toutes nos fautes. Mais il n'a rien de pauvre. Mais c'est vrai aussi qu'il vient nous toucher. Nous toucher, pas... Et on a vu aussi que le malin ne peut pas posséder un chrétien. Parce qu'on est déjà, disait Pasteur Dom, on est déjà... Il y a quelqu'un qui nous possède déjà. Qui est en nous, qui est avec nous. Et c'est le Saint-Esprit. La parole dit que c'est plus grand celui qui est avec nous que celui qui est dans le monde. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est en nous. Et alors, mais maintenant, nous allons voir le cours 12. Je suis valorisé en Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ... Excusez, c'est le problème de frappe. Hein? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, c'est 1 Corinthiens 3, 9, 4, 1 et 2. Je suis valorisé en Christ. Il y a une chose qui est tellement importante pour un être humain, et c'est d'être valorisé. Hein? Qu'on nous traite avec la juste valeur qu'on mérite d'être. On est tous des êtres humains. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme évident de ne pas être valorisé comme il faut. De nos jours, ça existe encore. Le racisme. Le racisme, c'est justement un manque de valorisation du monde. Parce qu'il y en a qui se croient supérieurs à d'autres pour certaines choses. Parce que je viens de l'Europe, je ne viens pas d'El Salvador. Ou parce que je viens d'El Salvador et je ne viens pas des Caraïbes. Ou parce que je viens de l'Afrique et je ne suis pas latino. Il y a tellement de choses. Dans tous les places du monde, on va trouver des personnes qui ne valorisent pas les autres dans la juste valeur qu'ils devraient. Un très grand problème qui cause tellement de troubles dans la société. Mais grâce à Dieu qu'en Christ, je suis valorisé, j'ai une grande valeur devant Dieu. Juste parce que je suis en Christ. Parce que les théologiens, il y a plusieurs théologiens qui disent... Ça n'existe pas, devant Dieu, ça n'existe pas le terme moyen, au milieu. Là. Il y a extrême, des deux côtés, chaud et froid, pas tiède. Devant Dieu, je lisais ça fait longtemps un théologien qui disait, ceux qui sont en Christ, ils ont le Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas en Christ, ils ont l'esprit du malin. Ils sont sous l'influence du malin, et je crois que c'est vrai. Le moral ne me fait pas partie du peuple de Dieu. Une personne peut être très morale, avoir des bonnes habitudes, vivre même parfois des non-croyants qui vivent peut-être une vie morale même meilleure que certains chrétiens. Ça arrive. Mais ils ne sont pas pourtant sauvés, ils ne sont pas pourtant non plus de la famille de Dieu. Alors, ce n'est pas le cas. Mais nous sommes valorisés en Christ. Pour Dieu, nous sommes des personnes de grande estime. Nous avons été rachetés à un grand prix, le sang de son Fils, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, est-ce que vous valorisez cette vérité-là? Est-ce que vous êtes clair que Dieu a payé un grand prix pour vous? Parce que ça doit se montrer. Si moi, je valorise ce que Dieu a payé pour moi, je dois le démontrer. Comment? Comment est-ce que je démontre à Dieu que j'apprécie ce prix qu'il a payé pour moi? De quelle façon? Est-ce que je sers le Seigneur? Parce que souvent, les chrétiens, je parle avec des chrétiens qui pensent que pour le fait de venir à l'église fidèlement chaque dimanche, ils vivent déjà une bonne vie chrétienne. Et c'est bon, je ne dis pas que non, c'est bien, il faut que nous soyons fidèles dans notre réunion. Mais est-ce que c'est ça le tout de la vie chrétienne? Pourquoi on est sauvé? C'est quoi la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés? Vous avez déjà pensé ça? Ça, c'est une des raisons. Et la première raison, pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Pour le glorifier. Oui, parce qu'il nous aime. Il aime même ceux qui sont rebelles à lui. Dieu aime toute la race humaine. C'est ça, voilà. Mais la première chose pour laquelle, comme disait Timothée, Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons pour sa gloire. Ça, c'est la première chose, pour sa gloire. Pour que l'être humain... Vous vous souvenez, dans le paradis, là, au début, Dieu avait toujours une relation personnelle avec Adam. Et Adam glorifiait Dieu tout le temps. Parce que le but pour lequel l'homme a été créé, c'est pour que l'homme glorifie Dieu. Alors, c'est la première chose. Comment peut l'homme, la race humaine, glorifier Dieu s'ils sont loin de Dieu? Si la race humaine est rebelle à Dieu, c'est impossible. Alors, il faut que Dieu rétablisse cette relation qui a été rompue à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme. C'est là que Christ rentre dans la scène. C'est là que Christ vient pour se donner, pour que nous soyons encore être de nouvelles créatures. Dieu ne nous a seulement changé, mais il nous a recréé, si je peux dire le mot. Alors, c'est pour ça que que pour Dieu, nous avons une grande valeur. Parce que c'est la vie de son Fils. Le sacrifice que Jésus-Christ a passé pour nous sauver. Je suis le sel et la lumière de la terre. Après, on va revenir. Parce que c'était mélangé, il a fait quelque chose, l'ordinateur, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je suis le sel et la lumière de la terre. Vous êtes le zèle de la terre, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Le zèle, ça sert à quoi, le zèle?
Ça donne du goût.
Ça donne du goût, ça condimente, mais ça préserve aussi. Hein? Vous savez que le zèle, quand on met beaucoup, ça préserve. Moi, j'étais toujours intéressé dans mon pays, El Salvador, mon pays d'origine, parce que c'est mon pays d'adoption. Mais mon pays d'origine, moi j'étais toujours, quand j'étais jeune, de voir que là-bas il y a de la crème glacée qu'ils font artisanale. Le monde se promène avec un petit chariot, ils font de la crème glacée, mais c'est une crème glacée de fruits naturels normalement. C'est très bon. Je ne vais vous pas raconter les détails parce que vous allez baver. Mais le monde, moi je voyais... Il y avait, dit en passant, là où, dans mon quartier, il y avait un monsieur qui faisait ça. Quand on est enfant, on est plus curieux d'aller voir les choses. Puis j'allais voir parfois quand il faisait la crème glacée. Il avait une petite pot ou contenant en aluminium. Et c'est là qu'il faisait la crème glacée. C'était dur. Je voyais que, waouh, il devait ajouter du lait, le fruit qu'il faisait, ça dépend quelle sorte de crème glacée. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il mettait tout autour du contenant, il mettait le... comment on appelle ça là? Non, c'est un tissu comme très ordinaire là, que parfois on occupe pour protéger les haies pour l'hiver. Là. Non, c'est pas du coton, c'est comme... comment je vous... Oui, mais c'est un tissu qu'on fait très ordinaire, là, très, très, très ordinaire, comme des petites lacets parfois qu'on fait aussi pour attacher. La jute, voilà, merci. Les joutes. Il entourait ça. Mais il mettait la glace en premier. Après, il couvrait avec la joute la glace. Après, il mettait beaucoup de sel.
Non.
Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel. Et alors, il mettait encore d'autres joutes. Et moi, je me demandais, oui, je pense que Geneviève, il connaît, parce qu'elle dit oui, oui. Mais moi, je me demandais, pourquoi le sel? L'affaire, la glace, la joute, le sel, la joute. Et je disais, pourquoi? Et là, une fois, je lui ai posé la question. Et il m'a dit, parce que le sel permet que la glace ne fonde pas vite. Ça arrive, ça fond à un moment donné, parce que là-bas, la température moyenne dans mon pays d'origine, c'est 30 degrés.
Hein.
Oh. Alors, vous pouvez avoir un... Et lui, il restait presque toute la journée. Et ça a préservé. Et ça me donne, ça a venu à ma tête quand j'ai vu le sel préserve.
On met du sel sur la glace ici.
Ben oui, pour que ça
fasse. Voilà. Parce qu'il y a un contact direct.
Ouais.
C'est ça la différence.
Ah.
Mais nous, comment c'est notre contact avec le monde? Direct ou indirect? J'espère que tu ne vas pas prier pour qu'il y ait des tonnerres qui tombent sur le monde. Non, mais sérieusement, non. C'est comme à deux voies. Parce qu'on doit avoir un contact direct sans faire la pratique du monde. Alors, mais ça attire mon attention. Comment le Seigneur nous appelle? Vous êtes le zèle du monde. Et vous savez que s'il y a quelqu'un qui pourrait lire Matthieu 5, 13, 14, s'il vous plaît. Pour voir tout le texte au complet. Puis alors, nous sommes le sel, dit le Seigneur, et nous, on est aussi la lumière. Et la lumière sert à quoi? À éclairer. Mais la lumière soulage. Comment soulage la lumière? La lumière donne espoir. Comment est-ce que la lumière donne espoir?
C'est parce qu'on peut voir.
Est-ce que, par nature, est-ce qu'on aime rester dans le noir?
Ben non.
Non. Qu'est-ce que fait la lumière?
Elle est claire.
Oui, mais qu'est-ce que... Disons, je me souviens aussi, quand on était enfant avec mon frère, parfois, on voulait gagner des sous. Hein. Puis ma mère nous donnait la permission d'aller parce qu'il y avait des champs de café près de la maison. Puis pour le mois de novembre, la fin de novembre, le monde allait pour faire la cueillette de café. Puis le monde allait pour... À un moment donné, après la journée, là, il allait dans la place où on fait tous les traitements du grain de café, on enlève la peau et tout, puis pour qu'il reste les grains comme tel, puis le font sécher dans des grands espaces. On aimait là-bas parce que parfois on aidait un peu, puis on nous payait quelques sous, et puis on avait de l'argent. Mais ça arrivait que parfois, pour aller à la maison, de la place, il fallait contourner, c'était long par la rue. Alors, mais si on traversait un petit bois, on arrivait très vite à la maison. Mais ça arrivait qu'il commençait à faire noir. Et puis, on nous avait déjà raconté que, parce que dans le bois, il y avait un petit ruisseau qui passait. Et les histoires de là-bas, ils disaient que là, il y avait un fantôme qui sortait. On l'appelle dans la langue... Je pense que c'est d'origine maya, s'appelle Siwanaba. Et c'est une femme qui sort et qui apparemment, elle l'aide, je ne sais pas, mais c'est une sorte de démon. Et puis on nous disait qu'on la voyait dans cette ruisseau quand il commençait à faire noir. Puis avec mon frère, on était là, on arrivait à l'entrée, on marchait sur la rue. Puis on arrivait à l'entrée du petit bois, là. Puis il faisait noir déjà. Puis on disait avec mon frère, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait le tour,
c'est long.
Ça va être long, à peu près 45 minutes. Si on traverse le petit bois, 10 minutes. Et on était déjà près de la maison. Puis ma mère nous donnait une heure d'entrée. Hein. Et ma mère, voyez-vous, elle n'était pas grande. Mais elle avait un caractère que nous...
Est-ce qu'elle était
C'est un bon point. Je n'avais pas pensé, je crois que oui. Mais on disait, non, on va traverser les bois parce que sinon on va arriver trop tard à la maison. Puis, on entrait, mais dès qu'on rentrait dans le bois, on commençait à courir. Hein, et on essayait de ne pas regarder le ruisseau qui était comme en bas. Non. Mais quand on arrivait et on voyait déjà une petite lumière parce qu'il y avait la première maison, quel soulagement! Quel soulagement! On est arrivé. Et moi, je pense, le Seigneur me donne ces choses de ma vie quand je pense à la lumière. Quelle bonne application si le monde, quand il nous voit, disait, waouh, je vois Aline. Aline est arrivée. La chose est différente maintenant. On devrait, dans là où nous sommes, avoir un impact. Pas pour ce que nous sommes, comment on est habillé, comment mais par la façon dont on agit comme un chrétien. Comment le Seigneur, quand je pense parfois, quand le Seigneur Jésus est arrivé quelque part, la personnalité du Seigneur, la Bible ne nous donne pas une description du Seigneur physiquement exacte. Au contraire, il dit qu'il n'avait pas une apparence physique, peut-être ce que le monde dit beau, hein, parce que le monde a un concept de beauté qui n'est pas nécessairement ce que la Bible enseigne comme beauté. Mais je pense que le Seigneur avait une personnalité, sa personnalité, là, son autorité. Quand il arrivait là, tout le monde le remarquait. Mais c'est parce qu'il était beau, selon la Bible, non. Mais parce que sa vie, elle-même, avait une autorité. Oui, je sais que je parle de Jésus-Christ, mais est-ce que les apôtres n'avaient pas non plus un impact dans la société, là où il allait? Je crois que oui. Pierre, le monde dit que même l'ombre de Pierre, le monde voulait les malades, parce qu'il y avait une autorité spirituelle qui dégageait. Alors, c'est nous. C'est la façon dont on peut être la lumière du monde. Que notre impact, là où nous sommes, dans le travail, là. Oh, je sais que William est là parce que ce gars-là, il est correct. Il s'est conduit comme il faut. Les non-croyants, ils remarquent ça. Hein? Ils font la différence. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience. Mais pour, aussi petit, les choses que nous fassions, ou si nous nous comportons comme il faut, sérieusement, responsablement, le monde le remarque. Et ça ne sert pas pour ma gloire, pour la gloire du Seigneur, parce qu'ils savent que nous sommes des chrétiens. Ils devraient savoir, en tout cas, s'ils ne le savent pas, là. Ils devraient savoir. Dans mon cas, dans mon travail, j'apprécie beaucoup parce que dès que je suis arrivé, la première chose qu'ils ont remarqué, c'est que je prie. Il y a des moqueurs toujours. Hein. Et parfois, il y en a qui, je sais, ils m'appellent le prêtre. Ils disent de moi. Mais en tout cas, ça ne me dérange pas. Parce que dès que je suis arrivé, il y avait les autres. Moi, je priais. Et ils me regardaient. Et comme je dis, il y a quelques-uns qui se moquent, il y a d'autres qui respectent. Mais à la longue, même une fois on parlait, il y avait plusieurs. Il y en a qui a commencé à dire de mauvaises expressions. Il y a un autre qui lui a dit, hey, arrête, parce que Maurice n'aime pas ça, il ne fait pas ça. Et moi, j'ai apprécié. Parce que ben, je ne me conduis pas au moins pour le langage. Il faut que nous soyons différents. Alors, mais là, ça m'a quand même fait sentir bien, parce qu'il a remarqué. Et il essaye de respecter quand même la façon. Alors, il y a plusieurs façons, ou une seule façon d'être lumière du monde, selon vous.
On doit commencer par notre famille.
Dans le foyer, oui.
Là.
Oui, parce que ça, c'est un bon point. Parce que parfois, on est à l'extérieur, on essaye de bien se comporter, mais qu'est-ce qu'on fait à la maison? Comment on traite nos enfants, nos femmes, ou nos époux?
Oui,
oui. Ouais. Alors, c'est très important, mais on est le zèle, puis on est la lumière. Mais je suis aussi, quoi? Je suis une branche de la vigne. Je suis, disait le Seigneur, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 1 et 5. Maintenant, car je suis en Christ, j'ai la capacité de produire du fruit. Et la vie de Christ court au travers de moi. Alors, moi, il y avait une chose qui m'a attiré l'attention en regardant le texte. C'est quoi le sarment exactement? Le cep, c'est quoi? C'est la partie, le tronc, mettons, qui tient toutes les branches. Hein? Mais c'est quoi le sarment? Parce que vous avez déjà posé la question. C'est quoi le sarment exactement de la vigne?
C'est les petites branches à côté qui portent les raisins.
Mais moi, je regardais, et j'apprends aussi le français. Parce que moi, j'ai regardé, puis il dit que pour que le sarment puisse tenir le rameau de raisin, il faut qu'il soit assez fort. Hein? Il faut qu'il soit assez fort. Puis il, en français, il appelle qu'il soit ligneux. Ligneux. Il doit lignifier, ça veut dire qu'il devient comme le bois, comme une partie du tronc dont il est attaché, pour qu'il soit assez fort pour tenir le rameau de raisin. Alors moi, ça a attiré mon attention, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Comment on pourrait appliquer cette fait de que le sarment devient comme ligneux, comme un morceau de bois? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il soit bien nourri par le tronc, par le cep. C'est qui le cep? C'est Jésus-Christ. On est les sarments. Alors, pour que je sois assez fort pour tenir le fruit, pour produire ce fruit-là et le tenir, parce que la parole dit de porter des fruits et que votre fruit demeure. Pas juste de porter des fruits. Parce que parfois, les arbres, ils font pousser les fruits, mais les fruits tombent parce qu'il n'est pas assez fort pour les tenir, pour les nourrir. Alors, mais le sarment doit être nourri du cep pour bien tenir le fruit, que le fruit demeure, qu'il reste là et qu'il arrive à maturité pour qu'il soit bon pour s'alimenter. Alors, si le sarment ne devient ligneux, il n'est pas capable de tenir le fruit. Alors, il faut qu'il s'alimente comme il faut du tronc pour que petit à petit, il devienne ligneux et il puisse avoir la force de produire ce fruit-là et de tenir ce fruit-là. Quelle bonne image, j'ai pensé. Parce que le Seigneur, il nous dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Alors, il est là pourquoi? Pour nous soutenir, pour nous fortifier. Et à qui de tenir le fruit? C'est à nous. Mais si on n'est pas assez bien nourri, allons-nous produire du fruit? Alors, comment est-ce que je me nourris? Comment est-ce que je serai capable de produire du fruit pour que ce fruit demeure? C'est juste si je suis bien attaché au cep. Et si la vie du tronc arrive jusqu'à moi. Mais si je me détache, si je ne prie pas, si je ne viens pas à l'église, si je ne lis pas la parole de Dieu, est-ce que je suis nourri?
Non.
Est-ce que je suis capable de produire du fruit? Je ne sais pas combien d'entre vous avaient déjà eu le privilège d'amener une personne à Christ. Je sais qu'il y en a qui ont les dons de l'évangélisation. Il y en a d'autres qui ont des différents dons. On n'a pas tous le même don. Mais pas parce que je n'ai pas le don, ça veut dire que je suis épargné, je ne dois pas évangéliser. Non, la parole ne dit pas ça non plus. Alors, mais il y a une telle joie d'amener quelqu'un à Christ. Le Seigneur m'a donné déjà ce privilège. Essayez-le. Vous allez voir comment votre vie va être enrichie dans le Seigneur. Comment d'amener une personne à Christ va vous donner il faut que vous le viviez pour que vous puissiez sentir cette expérience. Et meilleur encore quand c'est quelqu'un de la famille. Le Seigneur m'a donné le privilège de, avant que mon père meure, de lui amener à Christ. Et mon père a toujours dit dans sa vie qu'il était athée. Et j'ai, à un moment donné, j'avais arrêté de lui parler parce que quand je lui parlais du Seigneur, ça servait plutôt pour qu'il blasphème. Et là, j'ai dit, bon, non, je ne veux plus le faire. Mais avant qu'il meure, il a eu le Seigneur a eu la grâce, miséricorde avec lui, qui lui a donné un moment de lucidité. Il était très lucide. Que même je lui ai posé la question, « Papa, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu viens de faire ?» Il m'a dit, « Oui, c'est sérieux, c'est avec Dieu qu'on traite ici. » Alors, il est maintenant, je suis sûr qu'il est au ciel. Mais quelle joie ! Quelle joie ! Mon père, il a quitté ma mère quand... ma mère a quitté mon père plus tôt, mais parce que mon père était infidèle. Alors, ma mère, elle était comme très orgueilleuse. Puis c'est elle qui a quitté la maison. Un jour, mon père est sorti de la maison et quand il est arrivé le soir, la maison était vide. Ma mère nous avait pris, nous, puis elle est partie. Mais en tout cas, le fait c'est que je n'ai pas grandi. Si je peux dire grandir, ne riez pas. Mais juste la perfection, la taille parfaite, là. Puis, mais je ne sais pas c'est quoi l'expérience de vivre avec mon père. Ma mère a fait les deux rôles de père et mère. Mais ça ne veut pas dire non plus que je n'aimais pas mon père. Parce que c'est Dieu qui va juger, ce n'est pas moi. Alors, mais le Seigneur m'a donné la satisfaction, comme je dis, d'amener mon père avant qu'il meure à Jésus-Christ. Et ce sont des fruits qu'on doit produire. Quelle sorte de fruits qu'on doit produire? Est-ce que c'est juste le fait d'amener quelqu'un à Christ? C'est quoi d'autre, Elisabeth?
Tout ce qui fait pour la gloire de Dieu, c'est des fruits.
Oui.
Comme... fait par son Saint-Esprit.
Oui. Comme par exemple, aimer nos frères, est-ce que c'est un fruit?
Oui. La sagesse.
Pardon?
Grandir
en sagesse, ça veut dire la connaissance de la parole. Il va nous faire produire du fruit. Restons bien attachés. Soyons des armants ligneux, hein, que nous avons assez de force pour produire du fruit et que notre fruit demeure. Et ça va être pour la gloire de Dieu et pour notre croissance à nous. Nous sommes les premiers qui sommes bénéficiés avec ça. Quand on produit du fruit. J'ai été choisi et mandaté pour porter du fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. C'est ça que je disais tantôt. Je suis solidement installé. J'ai une tâche à exécuter. La question encore, est-ce que je suis solidement installé vraiment? Est-ce que j'accomplis la tâche pour laquelle le Seigneur m'a choisi, pour laquelle le Seigneur m'a sauvé? Parce que nous avons tous une tâche. Que vous ne la fassiez pas, ce n'est pas la question. Vous avez la tâche toujours. Et vous vous souvenez de la parabole des talents? Hein? Quand le Seigneur a donné à chacun un talent, il y en a qui est allé pour le faire produire. Et là, l'autre qui dit, non, j'ai eu peur de mon maître et je l'ai enterré. Puis quand il est revenu, il a demandé compte de mon talent. Puis il a donné son talent et l'autre a donné ce que le talent avait produit. Est-ce que le Seigneur était content avec les deux, non? Non. Il a reproché à celui qui n'a pas fait produire le talent. Dites en passant, il y a du talent, il y a des dons. Parfois, on confond. On pense, par exemple, la musique. Quelqu'un qui a l'habileté de la musique, ça, ce n'est pas un don, c'est un talent. C'est là de la part de Dieu. Mais les dons, si vous voyez, les dons, c'est une autre chose, c'est différent. Mais tout vient de Dieu, ça, c'est sûr. Alors, il faut que nous soyons conscients de la tâche que nous avons à exécuter. Et... je suis un témoin personnel de Christ. Mais vous recevrez une puissance, ça c'est Actes 1:8, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois, tout est relié. Le fait de produire du fruit et le fait d'être témoin, le fait d'être la lumière du monde. Jésus, est-ce que vous êtes un témoin? C'est quoi un témoin? Qu'est-ce qui fait un témoin? Techniquement parlant, c'est qui un témoin?
Qui vient apporter un témoignage.
Quelqu'un qui vient apporter un témoignage. Un témoignage de quoi? De quelque chose qu'il a vu, qu'il a vécu, n'est-ce pas? OK? Puis, est-ce que vous avez vécu quelque chose par rapport au Seigneur pour être témoin de ça? Est-ce que vous avez vu le Seigneur? Vous serez des apôtres. Quasiment. Est-ce que vous avez vécu quelque chose avec le Seigneur? Oui. Si vous avez accepté le Seigneur, si vous avez eu vraiment une expérience personnelle avec lui, vous avez vécu une expérience. Alors, c'est quoi être témoin alors? Si j'ai vécu une expérience avec le Seigneur, c'est quoi que je dois témoigner?
Je dois raconter ce qui m'est arrivé.
Tu dois raconter ce qui est arrivé. Mais oui, ça c'est la base de tout. Et qu'est-ce qui soutient mon vécu? Qu'est-ce qui soutient ce que j'ai vécu, ce que je vais témoigner?
C'est la certitude.
Parce que le monde, il y a deux choix. Que je témoigne et le monde a deux choix. Me croire ou ne pas me croire. N'est-ce pas? Quand un témoin vient parler de quelque chose qu'il a vécu, qu'il a vu, et il y a celui qui l'écoute, il y a deux choix.
Il y a la continuation.
De croire ou ne pas croire.
Oui, mais moi, si j'ai vécu une expérience et que j'ai tout laissé tomber, il n'y a pas de suite.
OK. Si tu as tout laissé tomber. Mais mettons, disons que tu viens et tu racontes ce que tu as vécu.
Oui.
OK. La personne qui t'écoute, il a deux choix. T'es quoi ou il te croit pas? Alors, qu'est-ce qui appuie que mon témoignage soit croyable, crédible, je sais pas? Pardon?
La parole de Dieu.
La parole de Dieu. Mais accompagné. Oui, mon frère. Je vais témoigner quelque chose, mais ça va être crédible si moi, mes actes viennent supporter ce que je dis. Okay? Parce que moi, je viens de dire, nous avons vécu, je bien espère que nous avons tous, à un moment donné, changé quelques petites choses qui soient, mais nous avons changé. Nous avons expérimenté un changement, parce que s'il n'y a pas de changement, vous devriez vous douter, vous examiner si vous êtes vraiment chrétien, si vous avez vraiment reçu le Seigneur. Mais il y a un changement. N'importe quel changement. Et ce changement va supporter ce que je viens témoigner. Comme disait Geneviève et Aline, si moi je viens témoigner à quelqu'un et je ne parle pas de l'évangélisation qu'on fait, disons, quand on sort dans la rue, puis on va témoigner. C'est sûr que les personnes ne me connaissent pas, là. Mais même à ça, la façon dont j'ai agi, je traite la personne, la façon dont je vais parler à cette personne-là. Parce qu'il y a des méthodes différentes d'évangélisation. Mais la méthode la meilleure, je pense, c'est avoir l'autorité de Dieu derrière moi et avoir un comportement respectueux envers les personnes. Parce que si une personne, il y a des groupes qui évangélisent, qui viennent dire, vous êtes dans le péché, vous allez mourir. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que j'ai besoin de lui dire à la personne comme ça quand je viens lui parler? Non. Et même, je peux même lui dire les mêmes choses d'une façon plus douce et la personne va peut-être l'accepter. Mais la façon dont je parle et la parole me dit que ma parole doit être assaisonnée, hein? doit être agréable. Alors il y a tellement de petits détails, mais le plus fort des choses, c'est quel témoignage j'ai dans ma vie, mettons pour mon entourage. Ceux qui me côtoient quotidiennement, l'entourage dans mon milieu de travail. Là. Parce qu'on passe plus de temps quasiment au travail qu'à la maison. On passe à la maison, oui, mais parfois on dort beaucoup. Hein? Alors, on est comme inconscient. Mais activement, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Et là, comme disait Christine, à la maison aussi, je dois témoigner que je suis un vrai chrétien. Et je m'améliore chaque jour. Hein? Si je faisais des fautes envers ma femme, mon époux, et moi je corrige pas ça, il y a un problème quelque part. Et alors, la vie chrétienne, c'est une belle vie. Mais c'est une vie, acceptons-le, de constant bataille, guerre spirituelle, parfois contre moi-même. Mais je suis solidement installé pour la tâche. Hein? Je suis solidement installé. C'est le Seigneur qui dit. Il nous a choisis pour porter du fruit. Et il nous a donné la force. Il nous a équipés pour le faire. Et alors, je suis prêt pour exécuter la tâche à laquelle il m'appelle, à la tâche que je dois accomplir selon son ordonnance. Je suis un témoin personnel de Christ. On a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On est sûr qu'on a reçu le Saint-Esprit? Parfois, je ris parce que le regard de certains, c'est comme... pas sûr, là. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez le Saint-Esprit en vous? Amen. Oui. Oui, on doit être certain. Sinon, en tout cas, ça nous donne plus d'autorité, plus d'assurance. Le Saint-Esprit est en moi et je vais de l'avant. C'est lui qui me conduit. Une chose importante, je suis le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je suis le temple de Dieu individuellement et je suis le temple de Dieu collectivement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment je suis le temple de Dieu individuellement?
Comme personne.
Et collectivement? Dans l'Église. Est-ce que le diable n'a pas une tâche de détruire une et l'autre? Oui. S'il détruit le temple de Dieu individuellement, il arrive à détruire le temple collectivement. Disons, si on parle de cette façon-là. Il faut alors que nous soyons clairs. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire 2 Corinthiens 11, 3, 4 et 13, 14, s'il vous plaît? 2 Corinthiens 11, 3, 4 et verset 13, 14. Merci, ma soeur. Deux façons de contaminer le temple de Dieu. La première, c'est une attaque directe contre la personne. Il parlait de séduction. Hein? Séduit. Le diable vient pour nous séduire personnellement. La deuxième attaque est contre le temple de Dieu, disons, l'Église comme telle, parce qu'il dit, si quelqu'un vient vous prêcher autre chose, vous bien le recevez. Et Paul est en train de parler aux Corinthiens. Vous avez une église conflictive, une église qui avait vécu ou qui était dans un contexte pas mal charnel. Souvenez-vous que c'était le temple d'Aphrodite là, et puis il y avait une pratique divine de sexualité, très corrompue. Et c'est sûr que plusieurs chrétiens étaient sortis de ce contexte-là et étaient plus peut-être sensibles d'être touchés, d'être séduits. Alors, la séduction personnelle vient directe du diable envers nous en tant que personne. Puis en tant que temple de Dieu collectivement, il va s'introduire, il va essayer de s'introduire par des faux doctrines, par des faux maîtres, pour corrompre la doctrine du Seigneur. Alors on doit faire attention aux deux choses. Les deux choses, nous devons être attentifs. Ne pas être séduit personnellement, et ne pas permettre que quelqu'un vienne introduire dans l'Église des fausses doctrines. On est responsable. On est dans le temps que la doctrine, toutes sortes de doctrines, toutes sortes de pratiques. Et il y a des personnes qui s'appellent apôtres dans certaines églises. Il prétend être des apôtres directs de Jésus-Christ. Je me souviens qu'à El Salvador, il y avait une église qui marchait dans la bonne doctrine. Et tout à coup, le pasteur, il a commencé à prêcher des choses divines, entre guillemets. Et il a commencé à dire que Jésus-Christ lui parlait plus directement. Alors, de telle façon qu'il a commencé à s'habiller juste en blanc. Parce qu'il était tellement pur. C'est vraiment... Hein? Mais ça existe. Et vous savez quoi? Les croyants, vaut la redondance, croient. Il a commencé à se faire entourer par les anciens pour que personne ne les touche. Parce qu'il était tellement pur. Alors sa pureté était démontrée par l'habillement blanc. Et alors, personne ne devait pas le toucher. Parce qu'il ne veut pas être contaminé. Et ça existe, mes frères. Ça existe les églises qui pratiquent le don du rire.
Du rire?
Hein? Du rire.
Ah ben, je
veux
y
aller. Tu l'as déjà, ma soeur. Sérieusement, ils le pratiquent. Ils passent en avant. Voilà, ils sont en train d'exercer le don. Je ne savais pas que vous l'aviez. Sérieusement, dans la pratique de ce don dans cette église-là, je produis le don. Ne me touchez pas là. C'est drôle, mais c'est vrai. Ça nous fait rire, mais écoutez, le monde qui pratique ce don-là, il passe en avant. Et là, il met en pratique, Elisabeth. Il a vraiment le don. Se met en avant, il commence à rire comme ça. Et à un moment donné, puis écoutez, le rire, c'est contagieux. Hein.
Ah oui, ah oui.
Surtout quand on rit avec beaucoup de. D'énergie. Et puis, le monde, parfois même, tombe. Parce qu'ils sont en train d'exercer les dons du rire. Et comment le monde arrive à croire des choses comme ça? Vous voyez, Satan n'a même pas besoin de faire des choses trop sophistiquées, trop difficiles. Mais il le fait parfois. Il faut faire attention, parce que parfois, il le fait aussi. Mais, soyons vigilants, que le temple de Dieu ne soit pas contaminé ni personnellement, individuellement, ni collectivement. Parce qu'il va essayer de deux façons. Hein? Et puis il va essayer d'introduire pour que l'Église prenne une autre voie que celle que Dieu a déjà marquée, la voie de l'Évangile, la voie de la parole de Dieu. Et c'est point 7, on ne verra pas tout là. C'est sûr, mais je suis un agent de réconciliation. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous avez déjà remarqué, on tourne autour de le fait d'être chrétien, le fait de produire des fruits, le fait de prêcher la parole, le fait d'être témoin, tous les points nous amènent à ça. Parce que la vie chrétienne, en fait, c'est ça. C'est qui ou quelle fonction exécute un ambassadeur? Qu'est-ce que fait un ambassadeur, techniquement parlant?
Il représente son pays.
Pardon? Oui, il représente son pays. Alors, si nous sommes des ambassadeurs, à qui nous représentons? C'est quoi notre pays? Avec Tim, on a fait l'étude. Hein?
Ah oui?
On est citoyen de quoi? D'où?
Du ciel.
Oui. Alors, on est des ambassadeurs du ciel.
Oui, hein? Du ciel, mais peut-être s'il y en a qui croient, il y a des extraterrestres.
Il y a des extraterrestres. Tu ne crois pas ça?
Non,
sérieusement. Sérieusement, il y a des extraterrestres. Les anges sont des extraterrestres. Ils n'habitent pas sur la Terre. Mais je fais des jeux de paroles. Non, mais je sais de quoi tu parles. Mais on est des ambassadeurs du ciel, de Christ. Nous représentons Christ. Alors, faisons cette tâche-là aussi. Mais je suis un pacificateur. N'est-ce pas? Qu'est-ce que fait un pacificateur? Il ajoute du bois au feu, hein? Un pacificateur. Non, il l'éteint. Je pensais Matthieu 5. Il y a quelqu'un qui pourrait le lire. Je ne sais pas si je l'ai ici. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est quoi ça, ce verset-là? C'est le serment de la montagne. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Alors, c'est les enfants de Dieu qui ont la tâche d'être pacificateurs, de produire la paix. On n'est pas ceux qui vont encourager les conflits. On est ceux qui font et essayent et qui aident à être, à faire la tâche des pacificateurs, d'apporter la paix dans le monde. Alors, grosse tâche. Grosse tâche. Mais nous avons recours pour les tâches. Je suis co-ouvrier avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Question, qu'est-ce que veut dire recevoir la grâce de Dieu en vain? C'est quoi? À quoi vous fait penser recevoir la grâce de Dieu en vain? Et vous avez une idée de ce que c'est quoi recevoir la grâce en vain? C'est très simple.
Oui.
Ne faites rien.
Voilà.
Ne faites rien.
Reçu, salut,
mais on est éteint. C'est ça. T'es sauvé? Oui, t'es sauvé. Mais qu'est-ce que tu fais après que tu as reçu la grâce de Dieu? Tu fais quoi? Tu produis rien. La grâce devient vaine en toi. Parce que toi, tu es là pour produire un fruit. Et nous avons, nous tous, selon la parole, c'est pas moi qui le dis, la parole dit que nous avons tous reçu au moins un don. Et ces dons-là, avec l'aide du Saint-Esprit, va nous pousser à faire quelque chose. Aussi petite que soit, nous allons tous faire une chose, produire au moins un fruit dans la vie. Examinez-vous, si vous arrivez à la conclusion que vous n'avez jamais produit un seul fruit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question pour chacun de nous. Que nous répondons à cette question-là nous-mêmes pour nous. Est-ce que j'ai produit des fruits? Est-ce que la grâce en moi n'est pas vaine? Ce que Dieu vraiment m'utilise, même dans une infime partie, pour que son royaume soit annoncé, pour que le monde croit qu'il y a un Dieu qui attend que le monde procède à la repentance. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Encore une fois, déjà, mais pas encore. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas encore littéral. Je suis l'œuvre de Dieu. Le temps est passé, je ne vais pas finir tard parce qu'on m'a déjà tapé la main dans la réunion de SDC, qu'on sort parfois trop tard. Je suis l'œuvre de Dieu, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, même les œuvres, Dieu a déjà fait les œuvres. Nous devons seulement marcher dans les œuvres que Dieu a déjà produites, préparées d'avance pour nous. Alors, on est sauvé, pas pour de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. On est sauvé pour faire de bonnes œuvres, pour produire de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Je peux m'approcher de Dieu avec liberté et confiance. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et nous avons vu aussi Hébreux 4, 16 qui dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce avec confiance parce que nous avons un libre accès. Est-ce que vous profitez de cet accès que nous avons en liberté? Et pour finir, je suis co-ouvrier avec Dieu. Co-ouvrier ne parle pas de... C'est un grand privilège, je pensais. Dieu nous appelle co-ouvrier. Pas mon serviteur seulement, Mais que, comme si on travaille côte à côte.
Comme un collègue.
Avec lui, comme un collègue. Oui. Paul parlait aussi que nous sommes co-ouvriers avec Dieu, parlant de lui, si nous lisions le contexte de 2 Corinthiens, quand il parle d'Apollos, c'est là qu'il parle que nous sommes co-ouvriers de Dieu et vous êtes les champs de Dieu. Alors, ça veut dire que nous accomplissons les deux tâches en même temps. Parce que lui est co-ouvrier de Dieu quand il travaille à instruire l'Église de Dieu. Mais vous, ou nous, l'Église, en tant qu'édifice de Dieu, en tant que champ de Dieu, nous avons la tâche de
faire pareil.
Parce que nous devons instruire ceux qui ne connaissent pas du tout Dieu. Alors voyez-vous, on est tous, finalement, on tombe dans la même catégorie, nous tous. On est co-ouvriers de Dieu, parce que nous devons faire la tâche que le Seigneur nous a demandé de faire. Et moi, j'ai pensé que nous avons un grand privilège, le fait que Dieu nous appelle co-ouvriers avec lui, comme des collègues avec lui. Il y a deux questions que je veux passer vite. Que veut dire recevoir la grâce de Dieu en vain? On l'a déjà vu. Était-il Dieu obligé de nous inclure dans son œuvre? Prend-il Dieu un risque en le faisant? Est-ce que Dieu était obligé de nous appeler pour qu'on travaille pour lui? Qu'on fasse la tâche de l'évangélisation dans le monde? Non. Vous savez quoi? Dieu serait très simple d'appeler des anges, puis aller. Et je crois, ceux qui sont dans l'eschatologie, là, je suis dispensationaliste, nous croyons que, si vous lisez dans l'Apocalypse, que le temps de la fin, là, il y a un ange qui sort dans le monde et prêche l'évangile de Jésus-Christ. Lisez l'Apocalypse et vous allez voir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez me voir, on va avoir une belle discussion. Puis, Dieu pourrait faire ça, tout simplement. À un moment donné, okay, il envoie des anges qui, d'une façon surnaturelle, ils prêchent l'évangile et tout. Mais à lui, il a plu nous faire participer pour que nous puissions avoir ce privilège-là. Ne le voyons pas comme une charge, voyons-le comme un privilège de prêcher l'évangile. Alors, nous finissons. N'oublions jamais le but pour lequel nous, ouvriers, travaillons. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous aide à être témoins, à être ouvriers de Dieu, à produire des fruits pour la gloire de Dieu. Ça va arriver. Si on voit quelque chose comme ça, on doit s'approcher avec douceur, considérant que moi aussi, je peux être faire des choses pareilles et pires, avec amour et humilité. Finissons parce que le temps a passé. Tim, peux-tu prier, s'il te plaît?